Radio Kapi.
Les journaux, c'est avec patience. Ngalula Banangé. Deuxième et dernier jour du festival à Mani, c'est dimanche à Ihusi, à Goma, toujours dans l'esprit de la promotion de la paix à travers la culture. Pour les Gomatraciens qui ont répondu massivement à ces rendez-vous, cela leur permet de se déstresser et de passer un message fort, celui de la paix. Élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Les gouvernements congolais et ses partenaires techniques et financiers sont engagés sur les objectifs de la stratégie mondiale de l'OMS. Ceci ressort des résolutions du Forum national pour l'élimination du cancer du col de l'utérus qui s'est clôturé vendredi 15 novembre ici à Kinshasa. L'invité de ce journal, c'est Guilain Ngueleza. Il est le chargé du projet intégré de croissance agricole dans la région des Grands Lacs Picagel. À la Banque mondiale, il revient sur l'évaluation de ses projets dans la province du Tanganyika avant sa fin, prévue le 31 décembre prochain dans cette province. Bonsoir à toutes et à tous. Le festival à Mani se poursuit ce dimanche 17 novembre dans la même ambiance et le même esprit, celui de la promotion de la paix à travers la culture. Le festival à Mani se tient à Goma, au village Ihusi. Sur place, le constat fait est que la population de Goma a répondu présente à cet événement culturel. Rachel Kiesembangu est sur place, voici son reportage.
Contrairement à hier samedi, ce dimanche, l'ambiance est au zénith. Les festivaliers sont venus en grand nombre au village Ihusi sous un soleil éclatant. Les activités ont débuté à 12h locales. Ngoma Art, groupe de danse traditionnelle, a ouvert le bal, puis d'autres activités s'en sont suivies. Les festivals est bien accueilli par les festivaliers qui ne ménagent aucun effort pour y prendre part entre amis ou en famille, comme c'est le cas pour Christelle.
Nous sommes là pour venir se détendre, voir nos artistes d'abord de Goma et aussi les artistes internationaux. Et nous sommes là pour se détendre en famille, oublier un peu ces moments de stress, de guerre. Voilà, c'est pour autant de soutenir notre pays, surtout ici à Goma. On a besoin de ce petit moment, on a besoin d'avoir la paix dans notre région, dans notre pays.
Le climat a impacté positivement cette deuxième et dernière journée. Les festivaliers ont hâte de voir Férégo la prester en fin d'après-midi. Goma, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Merci Rachel. Le festival à Mani mérite d'exister surtout pour ses premiers bénéficiaires qui sont les habitants de Goma. Cela leur permet de déstresser et de profiter de la vie, comme le disent certains, mais aussi de passer un message fort. Ils veulent la paix dans cette région. Quelques-uns d'entre eux s'expriment au micro de Rachel Kiesembangu.
J'ai toujours apprécié ce qui se passe au festival à Mani, donc je suis toujours là. Ça se passe ici quand même, je dois être là. Nous qui restons dans la ville de Goma, on aimerait faire passer les messages à tout le monde, qu'ils sachent ce qui se passe ici à travers le festival à Mani. On vise les Mani comme tu l'attends, on aimerait la paix quand même à Goma.
Nous sommes là pour venir se détendre, voir nos artistes d'abord de Goma et aussi les artistes internationaux. Et nous sommes là pour se détendre en famille, oublier un peu ces moments de stress, de guerre. Voilà, c'est pour autant de soutenir notre pays, surtout ici à Goma. On a besoin de ce petit moment, on a besoin d'avoir la paix dans notre région, dans notre pays.
Je suis là pour un peu participer aussi à cette organisation que je trouve un peu noble pour nous. Déjà, habitants de Goma, nous avons beaucoup de soucis, il y a des guerres, et puis ça stresse un peu. Et quand nous avons des organisations pareilles, nous aimerons y participer, tout ça. C'est un peu pour montrer que malgré l'état dans lequel nous sommes, on ne peut pas aussi oublier notre côté aussi social. Nous voulons aussi nous amuser, un peu pour oublier, profiter de la vie, malgré tout ce qui arrive.
Ici à Kinshasa, la clôture des activités du 10e anniversaire des Makutano a eu lieu ce vendredi 15 novembre par une visite au village Silikine à Kinshasa. Au cours de cette descente, les participants ont eu l'occasion de visiter les installations de ces centres d'accompagnement entrepreneurial. Il est composé de plusieurs services, notamment les data centers, un centre de réserve des données loué par différentes banques de la RDC et compagnies de téléphones cellulaires. Gérald Kronenbergs, directeur général de Silikine Village, souligne que ce centre est là pour aider les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs différents projets en leur offrant un espace adéquat. Il est au micro d'Étienne Lissoumbou.
Au-delà d'être un lieu d'accueil pour pouvoir accueillir des entrepreneurs dans un environnement où il y a la stabilité en termes d'internet, d'électricité, va au-delà de l'infrastructure, c'est dans l'accompagnement des entreprises, dans la formation, mais aussi de l'accompagnement afin de les accompagner dans la restructuration de leur business plan, de comment avoir accès au financement pour pouvoir grandir leur entreprise. Donc nous avons déjà 150 entreprises établies au sein de Silicon Village et on a plusieurs programmes. L'année passée, nous avons accompagné plus de 200 entrepreneurs à travers le programme K-Impact. Nous avons notre propre programme in-house Grandir et faire grandir qui a accompagné une cohorte de 12 entrepreneurs l'année passée. Et voilà, nos ambitions, c'est de continuer à accompagner de plus en plus de monde, mais mettre l'énergie sur des acteurs qui ont l'ambition de réussir.
Le membre du gouvernement, le partenaire technique et financier, les donateurs et autres sont engagés sur les objectifs de la stratégie mondiale de l'OMS pour l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. C'est ce qui ressort des résolutions du Forum national pour l'élimination du cancer du col de l'utérus qui s'est clôturé vendredi 15 novembre ici à Kinshasa. Pour y arriver, Polydor Mbongani Kabila, coordonnateur national du Conseil national de la couverture santé universelle, invite les participants à ces assises de multiplier des stratégies de prévention en intégrant notamment l'introduction de la vaccination contre le HPV et les dépistages de tests de haute performance pour sauver des vies, les vies des femmes qui souffrent de cette maladie. On l'écoute au micro de Stanislas Djoumi.
Vraiment une opportunité pour nous, pour que nous fassions avancer cette cause au niveau des provinces et que nous donnions aussi cette responsabilité de la lutte contre le cancer, l'élimination du cancer du col, de l'utérus et du sein aux responsables provinciaux aussi. Comme vous le savez, nous travaillons dans le cadre de la multisectorialité, donc nous allons aller au-delà des interventions qui peuvent être limitées au secteur de la santé, d'où l'importance d'avoir, par exemple, le gouverneur de province, d'avoir les présidents d'assemblée provincial parce que ils vont porter le message au large. Il ne sera pas limité au seul secteur de la santé. Nous allons donc nous mettre ensemble, chacun dans son rôle, ceux qui vont travailler dans la prévention, déjà ceux qui vont travailler dans la sensibilisation. Je vous félicite déjà pour ce premier pas qui est en fait une sensibilisation qui a déjà commencé. Donc, ceux qui vont travailler dans la sensibilisation, ceux qui vont travailler dans la prévention avec la vaccination.
Sachez que ce forum a été financé par plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale à travers les programmes multisectoriels de nutrition et santé, PMNS, un projet du gouvernement congolais au sein de l'UGPDSS. Plus de 30 femmes se sont fait dépister du cancer du sein en 2 jours dans la ville de Bounia. C'est dans le cadre d'une campagne lancée il y a plus d'une semaine par l'Association des femmes médecins de l'Ituri. L'objectif est de pousser le maximum des femmes à connaître leur état afin de prévenir tout risque de développement de la maladie. Cependant, la province de l'Ituri fait face à un défi majeur, à savoir le manque de médicaments et de matériel adéquats pour le dépistage et la prise en charge de cette maladie. Sadiki Aboubakar pour le reportage.
Ce samedi 11 novembre était le deuxième jour de cette campagne qui a été lancée jeudi dernier. Nous sommes allés au centre de santé de référence de Bounia Cité où les femmes médecins, au-delà de leur travail habituel, accueillent les femmes venues pour le dépistage. Devant nous, une femme allaitante qui vient de se faire consulter. Elle parle de sa motivation.
Moi, j'allaite. Parfois, ça donne des douleurs. Alors, c'est ce qui m'a poussé pour venir me faire dépister.
Une autre femme qui a requis l'anonymat sort tout juste de la consultation.
Nous sommes victimes de cette maladie dans la famille. Et j'ai réalisé que c'est parce que la maman n'a pas su faire le dépistage depuis bien avant. Et aujourd'hui, elle en souffre. Ça fait 2 ans. Elle ne marche pas. Ce qui nous coûte.
La docteure José Wanichan est membre fondatrice de l'Association des femmes médecins de l'Ituri. Elle souligne les défis auxquels l'Ituri fait face dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.
Je prélève, je les envoie à Kampala pour faire les examens parce que nous, on n'a pas de médicaments, on n'a absolument rien. On doit faire la mammographie chez certaines femmes. On n'a pas l'appareil de mammographie ici à Ituri. Et ceux qui n'ont pas de moyens, on ne peut rien faire pour les accompagner. C'est vraiment triste.
Elle affirme que la campagne va durer 3 mois et sera menée dans différentes formations médicales de Bounia en vue de toucher un maximum de femmes. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Santé toujours. Dans la province de la Tchopo, des associations à base communautaire s'engagent dans la lutte contre la maladie dite Mpox. C'était à l'issue d'un atelier organisé du 15 au 16 novembre courant par la Division provinciale de la santé avec l'appui d'Enabel en impliquant diverses couches sociales dans cette lutte. La DPS Tchopo voudrait casser la chaîne de transmission afin d'endiguer, sinon de réduire le nombre de cas de ces fléaux qui prend de l'ampleur dans cette juridiction. Reportage de Jacques Moukonkolé.
120 personnes ont pris part à cet atelier organisé par la Division provinciale de la santé. Selon le coordonnateur du programme de communication à la DPS, John Mundele, ces acteurs ont été outillés afin de s'impliquer notamment dans la surveillance à base communautaire afin que toute personne présentant des signes du Mpox soit acheminée rapidement dans un centre de santé le plus proche.
La riposte, ce n'est pas le problème de tierces personnes. Il faut informer la communauté pour qu'elle-même prenne ses décisions éclairées pour que demain, ils soient à l'abri de cette maladie.
Grâce aux notions apprises, les participants disent être suffisamment outillés, à l'instar d'Amos Boutangazi, coordonnateur des associations des taximen moto, qui déclare qu'il est maintenant bien informé de cette maladie dont il doutait l'existence.
Je suis maintenant aujourd'hui informé que Mpox existe. Nous allons vraiment donner des résultats positifs.
Solange Kalokola de la Division provinciale de pêche et élevage s'engage elle aussi à la sensibilisation de la communauté.
De ces derniers temps, on est sur terrain pour sensibiliser, pour lutter contre une Mpox.
Le taux de létalité est estimé à 4,8% dans cette entité est l'un des six premiers les plus élevés au pays, affirme John Mundele. À ces jours, 2155 cas ont été notifiés, dont 104 décès dans la Tchopo, souligne ce cadre de la DPS. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La République démocratique du Congo occupera la présidence d'AfriCaRoyes pour un mandat de 2 ans à travers le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Telles sont les retombées de la 33e session ordinaire de cet instrument de l'Union africaine tenue pendant 3 jours à Antananarivo, au Madagascar. Un sentiment de fierté pour le ministre Gilbert Kabanda Kourenga qui a regagné Kinshasa samedi soir avec une moisson abondante. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jackie Molima.
AfriCaRoyes signifie le riz africain. Et vous savez très bien que le riz est à la base de l'alimentation de la population africaine en très grande partie et que malheureusement ce riz est majoritairement aussi importé de l'extérieur. Avant nos indépendances, le riz n'était pas importé de l'extérieur. Après nos indépendances, le riz maintenant est importé. Depuis un certain nombre d'années, on a estimé qu'il fallait une politique du riz. Et cette politique-là du riz a commencé. Et aujourd'hui, le Congo a la responsabilité parce que AfriCaRoyes a été conçu beaucoup plus sous l'angle recherche scientifique et innovation technologique. L'organe scientifique et technique d'AfriCaRoyes, chez nous, c'est l'INERA. C'est à ce titre qu'en tant que ministre en charge de l'INERA, j'ai pris la présidence de cet important organisme pour 2 ans. Le signe de l'autosuffisance en riz, objectif que nous devons atteindre en définissant d'abord une bonne politique du riz.
Avant l'étape de Madagascar, le ministre Gilbert Kabanda revenait de Sochi où il a participé à la signature d'un accord de partenariat entre la Russie et la RDC dans les domaines les plus divers. Dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, les commandants de la police nationale congolaise du poste frontalier de Kasindi Lubiria, situé à la frontière avec l'Ouganda, a été arrêté et placé en détention depuis vendredi à l'auditorat militaire des garnisons de Beni. Selon des sources judiciaires, l'arrestation de cet officier de police a été ordonnée par l'avocat général militaire près la cour militaire du Nord Kivu. Il est accusé du meurtre présumé d'un bandit armé abattu par balle alors qu'il tentait de s'évader du cachot de la police de Kasindi Lubiria le 9 novembre dernier. La société civile locale s'oppose à cette arrestation et évoque un sabotage des actions de cet officier qui, selon elle, œuvrait pour la sécurité de la population. Son porte-parole, Denis Kalenga, a répondu au téléphone de Martial Papimukeba.
Aujourd'hui, nous sommes consternés de voir que les services de sécurité commencent par saboter les efforts que les autres fournissent sur terrain afin de pouvoir établir la paix chez nous au poste frontalier de Kasindi. Comment cela s'explique? qu'un officier de la police nationale congolaise, c'est lui qui a passé des nuits blanches à l'extérieur afin de pouvoir lutter pour que la sécurité soit rétablie dans notre poste frontalier, soit à l'heure où je vous parle, convoqué par l'auditorat militaire au niveau de la ville de Beni. Et on s'est dit, c'est comme s'il y a certains parmi ceux-là qui ont orchestré cette arrestation, qui favorisent même le cadre de banditisme qui s'est fait. Comment un élément de la police peut être convoqué par l'auditorat par motif meurtre? Et nous ne savons pas que ce meurtre a été orchestré où et quand. Et chez nous, en tant que population, nous sommes tellement choqués.
La société civile menace de déclencher dès ce lundi des journées villes mortes si le commandant de la police de Kassindi Loubiria n'est pas libéré.
Actualité internationale.
Au Mozambique, pénurie et hausse des prix au marché des Impeto, conséquence de manifestations. Le calme est revenu ce week-end après 3 jours de contestations électorales convoquées par les candidats malheureux à la présidentielle Venancio Mondlane samedi 16 novembre. La frontière terrestre avec l'Afrique du Sud a rouvert.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Guy Lengeleza. Il est chargé du projet intégré des croissances agricoles dans la région des Grands Lacs Picagel à la Banque mondiale. Il fait une évaluation de ces projets dans la province du Tanganyika. Pour rappel, le Picagel va mettre fin à ses activités dans le Tanganyika le 31 décembre prochain. Guy Lengeleza s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Guilengeleza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une forte délégation qui est venue évaluer ici dans les Tanganyika les projets réalisés par les Picagel. Quelles sont tout d'abord vos impressions?
Voilà, les impressions sont généralement bonnes, mais je dois dire qu'il y a aussi quelques inquiétudes parce qu'on a enregistré quelques retards dans certaines activités du projet. On est en train de travailler avec l'équipe de coordination du projet, avec le gouvernement provincial pour voir comment on peut résorber ce retard. Et je reste optimiste qu'on va le faire pour le bien des populations de Tanganyika.
Et ces retards sont dus à quoi?
Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont causé ces retards. Et certaines choses sont internes, le fonctionnement interne, peut-être les traitements des contrats. Mais essentiellement, ce sont les inondations. La région, particulièrement la ville ici de Kalemi, est en proie des inondations qui ont plusieurs fois fait que les entreprises arrêtent les travaux et cela a créé des sérieux retards.
Vous avez visité plusieurs réalisations exécutées par le Picagel. Et êtes-vous satisfait de ces réalisations?
Globalement, je dirais oui. J'irais même un peu plus loin pour dire que certaines réalisations sincèrement m'ont impressionné. Et par exemple, les aménagements hydro-agricoles des Tabac Congo sont vraiment impressionnants et j'ai eu la chance de parler aux bénéficiaires qui apprécient énormément ces infrastructures-là. Ils ont même commencé à voir les retombées parce que l'eau stagnante après des érosions ne restait plus en place pendant longtemps, juste à cause des infrastructures qui sont là. Cela étant dit, on doit continuer des efforts pour s'assurer qu'on termine la grande partie de ces infrastructures et certains périmètres deviennent exploitables avant la fin du projet qui est prévu le 31 décembre 2024.
Ces projets Picagel est financé par la Banque mondiale à coût des millions de dollars américains, mais on dirait que son impact sur les sociales de la population n'est pas tellement ressenti. Êtes-vous de cet avis?
Moi, je pense que le projet, comme j'ai dit, a connu quelques retards. Je suis convaincu quand tout sera terminé et bien terminé, les populations vont ressentir les bénéfices de ces investissements-là. Je n'ai aucun doute que lorsque le périmètre et les aménagements hydro-agricoles des Tabac Congo seront terminés, la productivité des producteurs avec qui j'ai longuement échangé va augmenter. En termes de riz, par exemple, qui est un produit stratégique, non seulement pour la région, mais pour le pays aussi. Et donc, je suis optimiste, mais j'aimerais voir plus avant de dire que je suis satisfait. Et le plus là, c'est vraiment terminer toutes les activités qui sont prévues dans le projet.
Il y a des gens qui ont bénéficié du financement de Picagel ici dans la province du Tanganyika, dans tel ou tel secteur, mais ils n'ont pas su évoluer et certains ont déjà abandonné. Êtes-vous au courant de cette situation?
Bon, je ne suis pas officiellement au courant, mais j'ai travaillé dans beaucoup de projets où on a fait des activités qui ont fait directement bénéficier les populations, particulièrement le fonds à coût partagé, où les bénéficiaires apportent un peu, le projet apporte un peu, et le bénéficiaire est censé continuer le sous-projet ou l'activité pour laquelle il a été appuyé. Et c'est vrai qu'il arrive que certaines, après avoir bénéficié, disparaissent. Je ne connais pas totalement l'ampleur ici au Tanganyika, mais ce que j'ai vu, franchement, moi, je crois en cette population-là. Je pense qu'ils sont conscients de ce que peut leur apporter ces dons dont ils ont bénéficié. Nous allons faire un rapport d'achèvement. Nous sommes en train de conduire une étude de performance qui va nous permettre de déterminer l'ampleur de ces choses-là. Mais définitivement, ce que j'ai vu jusque-là me donne espoir.
Vous venez de le dire, le 31 décembre prochain, Picagel va mettre fin à ses activités dans la province du Tanganyika. Et quelle sera la suite? Comment se fera la continuité?
La continuité, et tout ce que je peux dire, c'est que l'engagement de la banque vis-à-vis des populations de Tanganyika ne s'arrête pas avec la fin du projet Picagel. La banque va continuer à s'engager parce que la banque croit vraiment qu'il est important d'appuyer cette population qui fait déjà des efforts par elle-même, mais qui reste encore majoritairement pauvre. Donc la banque va continuer l'engagement. Quelle forme cet engagement va prendre? Il faut toujours savoir que les projets de la banque sont initiés d'abord par le gouvernement. C'est le gouvernement de la République qui demande le projet et la banque, est dans la mesure où cela cadre avec sa mission, appuie ce projet-là.
Monsieur Guilain Geleza, je vous remercie.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Radio Kapi. Merci à Billy Landry Betou qui l'a mise en onde et à Jude Bilan Dankoumar qui l'a préparée. Patience Ngalulambombo était à la présentation. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir.
Le 42 502, c'est Radio Kapi dans votre téléphone, par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Kapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.